Détendez-vous, vous êtes sur Radio Upshot.
Bonsoir tout le monde. Effectivement, il y a apéro dans le nom de l'événement et il y a fête aussi. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu de bruit, j'imagine, pour le début. On va essayer de capter votre attention, notamment avec deux brillants intervenants. Et c'est chouette que vous soyez aussi nombreux et en même temps, un événement qui a le mot apéro et fête dedans, c'est normal que vous soyez peut-être là. Et tant mieux, et c'est chouette. Dans le nom de cet événement, il y a aussi du coup le mot philo. Donc on va essayer de parler de la fête, de la notion de fête, dans un contexte pas toujours facile. Et pour en parler, moi je ne serai que le passeur de plat un peu entre vous et deux intervenants qui sont Vito Marinès, si je prononce bien ton nom, voilà, qui est juriste et professeur à l'université et à Sciences Po, et qui est aussi l'auteur de ce petit ouvrage que vous voyez là, qui est un manifeste sur la fête. À côté de moi, j'ai aussi Guy Dominski, DJ, moitié du duo électro Acide Arabe, que vous aurez la chance de voir du coup, en tout cas Guido, pas Acide Arabe, mais Guido ce soir, à partir de 23h30, où il fera un super DJ set. Et Guido, tu es aussi ancien directeur artistique de nombreux lieux à Paris, donc la fête, c'est ton rayon. Et d'ailleurs, tu m'as envoyé une petite bio qui date de 2012, mais pour la petite anecdote, la bio commence par, et c'était en 2012, en 17 ans, Guido a animé près d'un millier de soirées. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ton rayon, la fête. Et voilà, du coup, quelques mots de suite comme ça, avant d'aller un peu plus en profondeur dans le sujet. Quelle est la dernière fête réussie ? Quelle est la belle dernière fête que vous avez, faite, tous les deux ?
Là, la fête de la musique, mardi, à Rennes. C'était génial. En plein air, dans une ferme, on était bien. Bon, il a plu, mais les Bretons, ils s'en foutent.
Et quel genre de fêtard tu es ? Toi, tu restes plutôt derrière les platines et du coup dans ta bulle, ou tu es plutôt expansif quand tu n'es pas derrière tes platines, justement ?
Non, c'est vrai que je préfère derrière les platines, mais j'aime bien un peu tout.
Ok, on verra, Acide Arabe, c'est un collectif et un duo qui voyage beaucoup, notamment à travers sa musique aussi. On verra, on abordera aussi la question de la fête aussi à l'étranger, on y reviendra tout à l'heure. Vito, toi, c'est quoi la dernière fête que tu as fait qui t'a marqué ?
La dernière belle fête réussie, c'était à Montreuil, là où j'habite, en banlieue parisienne. Et c'est une fête de village qui s'appelle le Festival des Murs à Pêche, qui se passe dans la nature, et qui est absolument génial.
Donc, voilà. En 2020, c'était incroyable.
Et justement, pourquoi génial ? C'est quoi, toi, pour toi, les ingrédients qui font que c'est une fête réussie ?
C'est très ouvert. Le prix, enfin, c'est un prix libre à l'entrée. Pour moi, c'est vraiment un ingrédient important en termes d'accessibilité de l'événement. Et puis, c'est un vrai coin de campagne préservé en plein milieu de la ville, en banlieue parisienne. C'est assez rare. Et c'est plein de petites associations qui font vivre des parcelles de nature en invitant des artistes. Alors, pour le Festival des Murs à Pêche, c'est toutes les parcelles qui sont coalisées. Il y a du théâtre, il y a de la musique, et c'est de ce point de vue-là, en termes d'accès à la culture, un moment assez incroyable dans la ville.
Donc on pourrait dire les ingrédients gratuité, convivialité, et pas forcément tourner que vers la soirée, la musique, mais qui rassemble plusieurs thématiques et plusieurs pratiques peut-être différentes.
Ouais, mais il y a aussi le troisième ingrédient, soirée, danse, tout ça.
Ok.
Il y a tout.
Il y a tout, ok. Il y avait un troisième intervenant qui était prévu normalement à cette table ronde, qui est Léon Mazarel. Mazzella, pardon, Léon Mazzella, qui est un auteur qui vit dans le sud-ouest, qui devait aussi intervenir, et donc on pensait aussi pouvoir évoquer les fêtes dans le sud-ouest, la spécificité, donc on l'évoquera, mais peut-être aussi à travers vous et votre parole, vos interventions, si parmi vous il y a des aficionados, des férias et autres fêtes du sud-ouest ou du sud, en général de la France, voilà, n'hésitez pas à intervenir, à demander le micro, et on vous le tendra avec plaisir. Et donc, avant de continuer un peu plus loin dans la thématique, j'ai fait un exercice un peu scolaire, mais qui est assez intéressant à faire finalement. C'est comme un élève appliqué au bac de philo. J'ai regardé la définition dans le Larousse de ce que c'était la fête, et il donne 6 définitions. Première, solennité religieuse ou cérémonie commémorative. Deuxième, jour consacré à la mémoire d'un saint considéré comme le patron d'un pays. Troisième, réjouissance publique destinée à commémorer périodiquement un fait mémorable, ou un événement ou un héros. Quatrième, réjouissance, festin, bal offert par quelqu'un en l'honneur de quelque chose.
Ah, je pense celle-là, ouais.
Cinq, partie de plaisir, une nuit de fête par exemple.
Cinq aussi.
Six, toute cause de vif plaisir.
Bon.
Donc on retrouve donc là à travers ces 6 définitions des notions et des concepts clés qui façonnent notre société, celui de religion, celui de nation et celui de plaisir. La fête, parce qu'elle induit une participation collective, voire une communion, apparaît donc comme une des formes essentielles de nos vies d'êtres sociaux, pour emprunter les mots de l'anthropologue Emmanuel Lallemand qui travaille beaucoup sur cette thématique. Est-ce qu'au niveau du son, vous m'entendez ou il y a des variations? Ça va? Il y a des variations, mais pour l'instant, ça passe. OK. Et donc, une question nous vient forcément, et puis vu que c'est la thématique aussi de ce festival, c'est comment communier dans le contexte actuel. On ne nous manque pas de nous rappeler tous les jours les différentes crises que nous traversons. On parle même de crise systémique avec la crise, la dernière crise, la crise sanitaire avec la Covid-19, bien évidemment, qui nous a contraints à ne pas faire la fête, qui nous a contraints à rester en famille, voire à rester tout seul des fois, qui a mis aussi en danger tout un secteur, celui de la culture, peut-être qu'on y reviendra avec Guido, avec de nombreux théâtres fermés, enfin les bars fermés, les boîtes de nuit, les théâtres. Et donc ce secteur-là a été mis en pause, et à cette crise du Covid, on peut aussi rajouter tout un tas de crises latentes qui font de notre quotidien, notre quotidien qui le rend un peu morose, la crise écologique, on ne manque pas d'en parler aussi, la crise démocratique, on l'a vu avec les dernières élections, la crise économique, sociale, bref, je vous invite à vous resservir un verre, si vous voulez, tout de suite, pour oublier tout ça, puisque c'est quand même un apéro philo. Voilà, j'enfonce quelques portes ouvertes, mais... ce qui est intéressant aussi dans ce contexte morose, c'est peut-être qu'aussi il est propice aux remises en question, aux contestations et aux engagements politiques inédits, et donc peut-être un renouveau, un changement de société possible. Alors dans ce contexte, la fête est-elle aujourd'hui un antidote au blues général? Est-ce que c'est un échappatoire à notre quotidien jalonné de burn-out? Est-ce que c'est au contraire une marque d'un élan utopique, d'une réflexion politique qui va participer aux différentes transitions que nous vivons? Et si oui, de quelle manière peut-on encore faire la fête? Guido, par exemple, toi, sur l'après-Covid, est-ce que tu as vu un changement dans la façon de faire la fête, toi qui au quotidien, qui anime de nombreuses nuits festives?
Il y a eu toute une série de périodes de retour à la fête. Il y en a eu en 2020, il y en a eu en 2021, parce qu'à chaque fois, on croyait que c'était fini, puis ça recommençait, puis c'est... Et j'ai sans arrêt croisé des gens qui faisaient la fête pour la première fois depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 2 ans, machin. Donc il y avait un truc un peu « Ah, il faut tout prendre ». Et puis voilà, après on retombe dans les clous, quoi.
Ok, donc il y a quelque chose d'euphorisant, il y a un renouveau en tout cas, ouais. Mais on ne fait pas forcément la fête différemment dans le monde d'après que dans l'ancien monde. T'as pas trouvé?
J'ai pas trouvé pour le moment. Enfin, au début, si. Et puis, maintenant, les choses reprennent leur cours. Cet épisode Covid paraît être un truc qu'on a rêvé tous, qui est à peine réel. Voir quelqu'un avec un masque aujourd'hui dans le train, c'est presque étonnant. Et on a du mal à se dire que tout ça, c'est réellement passé, quoi. Qu'on a traversé des épisodes où il fallait faire la teuf en restant assis. Où il fallait plus, on pouvait pas mettre fort, on s'est adapté à tout ça. Nous, avec mon groupe, on a fait un spectacle avec une fille qui faisait des dessins sur un grand écran, comme ça les gens étaient assis, enfin, on s'est adapté. On a fait aussi une soirée une fois dans une grande salle à Chambéry où il était interdit de se lever. Il y avait des membres de la sécu. Dès que quelqu'un se levait, il venait taper sur l'épaule. Non, assis. Et les gens commençaient à danser assis. Ils ont inventé des danses au sol. Bon, voilà, je crois qu'on arrive toujours à se démerder, quoi.
Vito, toi, la danse assise, c'est quelque chose que tu pratiques, du coup, que tu as pratiqué ?
Non, jamais pratiqué. Ça fonctionne, oui. Jamais pratiqué la danse assise, mais c'est intéressant. Intéressant. Okay. Ça va tester, pourquoi pas.
Tu trouves qu'il y a une différence entre... est-ce que la fête a changé pour toi depuis la sortie du Covid ?
Je retrouve Guido dans le constat de ces moments de... On arrête et puis on repart. Et à chaque fois qu'on repartait, qu'on avait la possibilité de faire la fête, il y avait quand même cette euphorie. Ouais. Quand même, il y avait... Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait aussi vachement ce questionnement sur... c'est tellement, enfin, on a réussi à s'en passer, et en fait, c'est tellement essentiel, et on se rend compte que ça aurait dû nous manquer encore plus. Enfin, il y a eu comme une prise de conscience que c'était bien plus essentiel, et je mets le mot entre guillemets, que ce que les pouvoirs publics considéraient.
Ah ouais, le terme est d'autant plus juste que c'était précisément le terme employé.
Non essentiel.
Ouais.
Non essentiel.
On verra justement, on reviendra sur ce thème, notamment à travers ton ouvrage. On reviendra aussi sur la fête comme un espace de création politique et d'utopie, peut-être. En me renseignant aussi sur le sujet, j'ai vu quelques chiffres. Il y a 40 ans, il y avait 4 000 boîtes de nuit. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a plus... Il y avait 40 000, boîtes de nuit. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 20 000 depuis la crise du Covid. Il y avait 200 000 bistrots. Dans les villages, aujourd'hui, il y en a plus que 40 000. Et ça veut dire deux tiers des villages en France n'ont pas de bistrot. Jérôme Pelletier, dans un autre ouvrage qui s'appelle « La fête est finie », développe la thèse selon laquelle la fête n'a pas vraiment été tuée par le Covid, mais que c'est un mouvement de fond qui fait qu'on s'est pour différentes raisons éloigné de la fête. Et notamment sa thèse principale, c'est que comme aujourd'hui tout est fête, il y a de la fête dans les monuments historiques, la fête, il y a tous les jours, il y a une fête nationale, comme tout est fête, il n'y a plus de fête. Est-ce que vous partagez un peu ce constat ?
Je suis complètement d'accord, mais c'est surtout un problème d'appât du gain qui a créé un rejet un peu général d'une génération plus jeune aujourd'hui face aux clubs. Qui a encore envie de payer 15 balles l'entrée pour voir des DJs qui habitent à côté, de se faire mal parler par un videur, enfin tout ça, je crois qu'on n'en veut plus, quoi. À Paris, il y a 20 ans, c'était impossible d'imaginer aller faire la fête en banlieue, c'était la honte de traverser le périph pour aller voir ce qui se passait derrière. Et là, 20 ans plus tard, c'est tout l'inverse. Tout se passe hors de Paris, dans des endroits qui appartiennent pas... à des limonadiers, à des vendeurs de boissons. Cette génération-là qui a 18-25 ans est en train de réinventer complètement le truc. Et certains... je parle de Paris parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. Il y a des clubs qui survivent, comme le Rex et tout, le Rex Club qui est un peu légendaire. Mais sinon, la plupart des clubs, notamment les clubs à la con, près des Champs-Élysées, tout ça, ils sont en galère aujourd'hui et franchement, ils l'ont cherché. C'est pas le Covid qui les a tués, c'est leur politique, quoi. Okay. Leur politique du chiffre.
Vito, tu partages le constat ?
Oui, c'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience au moment de la crise du Covid, mais il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la crise sanitaire et la manière dont on considère la fête dans notre société. Je pense, peut-être juste petite parenthèse, ça a été un argument hyper fort pour justifier les violences policières, notamment en Bretagne, dans une rêve partie à Redon. Je ne sais pas si ça vous a dit quelque chose. Ou comment est-ce que la crise sanitaire a été une justification à l'usage disproportionné de la force à laquelle on est hélas habitué du côté des forces de l'ordre. Ceci étant dit, si on met de côté la crise sanitaire, en dehors de cette crise, il y a déjà beaucoup à dire sur l'état de la fête dans notre société. Et lié à ce que, enfin, aux crises que tu évoquais, et parmi ces crises, moi je mets la crise sociale sur le devant, parce que quand j'étais invité à ce débat, la question c'était peut-on encore faire la fête ? Et la première réponse qui m'est venue spontanément, c'est de dire ça dépend qui on est en fait. Et si on a la chance de ne pas avoir un travail qui nous assomme complètement, et tellement que quand on rentre chez soi, on n'a pas d'énergie pour faire autre chose que de mater une série sur Netflix ou que sais-je encore. C'est ça, finalement, la question. La question, c'est non seulement le temps libre, mais l'énergie que nous laisse le travail, mais c'est aussi les espaces disponibles. Mais voilà, cette question de la fête, elle montre à quel point nos droits sociaux fondamentaux, le droit au temps, le droit à la culture, le droit aux espaces, tous ces droits fondamentaux conditionnent la possibilité de la fête. Et quand ces droits sont de plus en plus délaissés, méconnus, méprisés, reniés, parce que c'est la culture du travail, il faut toujours travailler plus, il faut toujours pour gagner plus. La question du pouvoir d'achat, c'est ahurissant, comme la question du pouvoir d'achat occulte toute la problématique des droits fondamentaux. Point que les gens ne se posent même plus la question de savoir s'ils ont des droits. Et il y aurait beaucoup à dire sur l'éducation populaire en matière d'accès aux droits, etc. Bon. Mais tout ça pour dire que tous ces droits conditionnent la possibilité de la fête, et c'est parce que tous ces droits sont reniés petit à petit qu'au final, on se retrouve à vivre dans une société moins festive. Alors heureusement, il y a des issues, on trouve toujours des voies, des issues pour faire la fête, mais globalement, c'est la morosité expliquée par le droit.
Sur les droits, justement, tu dis quelque chose dans le livre, tu dis que certains droits sont plus protégés que d'autres par l'État, par les gouvernements, le droit d'entreprendre, par exemple, mais que le droit au bonheur qui est inscrit dans la Constitution de 1789, celui-là, par exemple, on n'en entend pas forcément parler.
Je fais le test. Est-ce que vous saviez que le bonheur de tous fait partie de notre Constitution ? J'aime bien, vu que j'enseigne, à chaque fois que j'en parle à mes étudiants, ils me regardent comme si j'étais complètement farfelu, que j'avais peut-être consommé de la moquette. Et en fait, je suis obligé de leur montrer pour qu'ils me croient. Regardez, c'est dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et en fait, pour préciser, c'est pas, comme dans la Constitution américaine, un droit au bonheur. C'est encore plus intéressant, c'est que les pouvoirs publics qui nous représentent dans un système démocratique doivent toujours poursuivre cet objectif fondamental qui est le bonheur de tous. Et donc ça donne à réfléchir quand on dit que finalement les droits constitutionnels les mieux protégés, c'est le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, mais qu'à côté de ça on oublie l'accès à la culture par exemple, parce que c'est un droit, c'est dans le préambule de la Constitution de 1946 et ça fait partie de notre droit constitutionnel positif. Donc voilà, toute cette problématique, effectivement, de l'éducation populaire liée aux questions juridiques. C'est parce qu'on ne parle que de pouvoir d'achat qu'on oublie, comme je le disais tout à l'heure, de connaître et de défendre nos droits fondamentaux. C'est une forme de manipulation, on peut le dire comme ça, mais je suis même pas sûr que ce soit absolument conscientisé de la part de nos représentants. Je pense qu'il y a un manque de culture juridique de leur part, et puis peut-être l'aveuglement d'une croissance à tout prix, parce que voilà, on est du point de vue de l'électorat aussi, il ne faut pas se voiler la face. Il y a plein de gens qui se disent je veux de la croissance économique parce que je veux garder mon emploi, parce que je veux pouvoir consommer. Et ça, c'est un schéma qui existe aussi.
Guido, toi, en tant qu'organisateur de soirée, c'est quoi qui t'a animé quand tu t'es dit tiens, je vais en faire ce métier et je peux en faire ce métier, c'est partager du bonheur, donner du bonheur aux gens?
Non, ce qui m'a animé, c'était l'envie de jouer. Voilà, je me disais, si personne va me booker, personne ne me connaît, donc j'organisais mes propres soirées, comme ça, j'étais sûr d'avoir un endroit où jouer. Et de fil en aiguille, après j'ai fait jouer d'autres gens, et etc. Bon. Mais le départ, c'est ça, ouais.
Ok, mais j'imagine qu'on voit bien, entre la fête à Montreuil et puis une fête dans une boîte de nuit sur les Champs-Élysées, il y a tout un spectre. Et c'est pas que la musique qui fait que la fête est particulière. Est-ce qu'elle revêt d'autres atouts quand tu organises une fête?
C'est tout un état d'esprit. Quand on est dans une soirée organisée par des gens qui mettent en avant... qui mettent en avant, voilà, la l'aspect culturel et l'aspect festif plus que le reste. On le ressent comme quand on est dans un restaurant, quand le directeur c'est un connard, comme par hasard, tout le monde est un peu désagréable. Bon, ben, c'est, finalement, c'est un peu pareil. Et ça se ressent, quoi. Il y a des clubs et des festivals et des soirées et tout ça qui sont pas faites pour valoriser ceux qui viennent et la musique et tout, mais simplement, c'est le tiroir caisse. Bon, mais je me répète un peu parce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Mais voilà, c'était quoi la question?
Est-ce que derrière les soirées que tu peux faire, tu ressens une forme de politique, d'action politique, ou ce serait un peu trop...
Bah ouais, vraiment, ouais, bien sûr. Évidemment, il y a des gens qui font des soirées, qui font des fêtes, qui font des festivals, et c'est politique quand ils décident de faire en sorte que le public soit... ceux qui profitent le mieux de l'événement, bah, généralement, ça se passe mieux que dans d'autres cas.
Tu parlais d'évoquer la fête une fête en Bretagne, une free party qui a été réprimée par les forces de l'ordre. Il y a eu quand même pendant le Covid des moments comme ça, des poches de résistance où il y avait des fêtes qui venaient transgresser ces lois. Et il y en a eu plein.
Ouais.
Il y a des...
À Paris, il y en avait un peu partout, à Paris, en banlieue, il y a des maisons qui se sont transformées en lieux de fête, c'était tous les soirs,
okay.
Blindés de gens qui n'en avaient rien à foutre du Covid, qui étaient dans un autre monde. Quoi.
Tu parles des ministres qui faisaient la fête.
Ah oui, il y a eu ça aussi. Bon, alors certainement, c'était pas très cool, ça a dû donner lieu à des clusters, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui... C'est une flamme qu'on ne peut pas éteindre.
Vito, tu as écrit ce petit livre-là qui est en vente ici. Les gens peuvent se le procurer pour la modeste somme de 5 euros, je crois. C'est voilà, ça. Donc profitez-en. Vous pouvez aussi l'acheter sur Internet. Ce livre, tu as eu envie de l'écrire en réaction à la phrase du préfet Centre-Val de Loire qui disait « La bamboche, c'est terminé ». Comment t'es venue cette idée d'écrire ce tract, en fait, ce manifeste?
Alors en fait, c'est pour mes proches, et notamment ma fille, qui a 16 ans, c'était pas du tout une surprise. Elle m'a dit, bah, évidemment, tu travailles sur la fête. C'est un sujet qui me travaille depuis longtemps, en fait. Quand j'ai fait ma thèse sur, disons, la question de la démocratie, j'avais commencé à me demander, voilà, qu'est-ce qu'une bonne condition sociale pour qu'une démocratie existe ? Il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens parlent entre eux, il faut qu'ils puissent échanger, partager sur leurs conditions. À partir du moment où on se rend compte qu'on partage des problèmes en commun, ben on peut se dire ben, on a peut-être des intérêts à défendre ensemble. Donc je me disais, dans la démocratie, il y a ce besoin de convivialité, de rencontre, d'échange, de partage. Et j'avais rencontré les écrits de Rousseau, notamment dans les lettres à D'Alembert. Et c'est un texte vraiment que je trouve magnifique et je vous recommande, dans lequel il expliquait que la fête est une condition de la démocratie. Sans fête, il ne peut pas y avoir de contrat social. Et il racontait notamment des anecdotes assez incroyables de danses traditionnelles qui se dansent par génération. Il y avait les enfants, les parents et les grands-parents, chacun ayant leur partition à chanter. Et donc, ils se donnaient le chant, enfin, ils se répartissaient le chant en trois générations. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment un truc absolument crucial, effectivement. Et quand j'ai découvert que c'était à ce point attaché à la démocratie, j'ai continué à bosser sur le sujet. Donc, j'ai écrit plusieurs essais. Mais à chaque fois, je partais ou de la question des droits fondamentaux ou de la question de la démocratie pour redescendre vers la question de la fête. Et puis cette fois-ci, je me suis dit, peut-être je peux procéder de manière inverse. Je vais partir de la fête et je vais voir comment ça peut revenir vers les droits fondamentaux, la question démocratique.
Tu écris dans une tribune pour Libération, je vais te citer, que tu as rédigé en mai dernier, je crois, si je ne me trompe pas. « Face à l'obsession productiviste, notre temps de vivre est attaqué de toutes parts. Le droit à la fête devrait être reconnu ici et maintenant dans les politiques publiques déconnectées du bien-être collectif. » Que rend possible la fête, selon toi ? Qu'est-ce qu'à travers la fête, qu'est-ce qui peut s'exprimer, justement, démocratiquement ?
Sur que rend possible la fête, moi je retrouve Guido dans ce qu'il disait tout à l'heure, enfin, c'est d'abord un artiste qui joue ou des artistes qui jouent, et ça dans cette dimension culturelle de la fête elle est cruciale, mais ici c'est le festival de Contis, du film de Contis. C'est la culture qui nous rassemble, c'est la culture qui nous permet de chanter ensemble, c'est la culture qui permet de créer du lien finalement entre nous. Donc, déjà la fête elle permet ça, un accès à la culture et la possibilité pour les artistes de vivre leur art. Ensuite sur ce que ça permet, la rencontre, le partage, ça, on enfonce là peut-être une porte ouverte, mais pas tant que ça, parce que je pense qu'il faudrait creuser un peu plus ça. Je pense qu'on n'a pas assez conscientisé le fait que se retrouver avec des potes et faire la fête, décompresser, se marrer, danser, même si on n'a pas de slogan politique, c'est déjà faire de la politique. Ça aussi, je crois que ça apporte ça, cet élément essentiel, peut-être pas assez mis en avant. Et peut-être troisième chose, ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, il y a eu des mouvements politiques. Je repense à Nuit Debout, mais avant, il y a eu Génération Précaire, Jeudi Noir, et j'en passe. Des mouvements politiques qui portaient des causes hyper importantes. La précarité dans le milieu du travail, l'accès au logement, ou simplement la question de la démocratie. Et à chaque fois, il y avait une dimension festive qui rendait ces mouvements vraiment attractifs, qui donnait envie aux gens. Et moi, ce que j'ai vu pas mal le milieu politique fonctionner, même de très près, et souvent, je me suis retrouvé à être invité à des réunions politiques le mercredi soir à 19h pour discuter après le travail, de manière sérieuse, derrière des tables. Et c'est un repoussoir. Et quand on m'a dit, il y a Nuit Debout, on peut prendre un godet, se poser sur la place, discuter avec les copains, il y a de la musique, mais on peut débattre aussi, on peut discuter de choses importantes, on peut discuter du fait d'être sur la place publique. Je me suis dit, c'est assez génial ce combo fête et politique. Et non, l'un et l'autre ne s'excluent pas. La fête, c'est sérieux. Et la politique, ça peut être actif.
Et je vais faire un peu l'avocat du diable, mais sur, par exemple, on a vu que les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement aussi festif, c'est-à-dire qu'on se réemparait des espaces publics et notamment des ronds-points pour partager des idées, mais aussi des moments de joie. On a vu en Algérie, à Alger, surtout le mouvement, le Irak, avec toute une jeunesse algérienne qui allait manifester pour faire tomber Bouteflika. Et au fond, on se demande ce que ces mouvements-là, qui étaient très festifs, qui étaient intelligents, pacifistes, etc. Enfin, pacifistes, en tout cas, il y a eu des mouvements de violence, bien sûr, de part et d'autre, on ne peut pas le négliger, mais en tout cas, qui portaient en eux une revendication pacifique, n'ont pas débouché sur grand-chose. En Algérie, il y a toujours la clique de Bouteflika, même si lui est parti. En France, il y a toujours Macron, la même crise d'attente et les mêmes revendications. Est-ce que vraiment la fête, c'est quelque chose de... Voilà, tu vas plus loin, on verra tout à l'heure que tu parles de créer un éventuel parti, mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment transformer ça ?
Alors, juste, c'est intéressant, on connaît notre petite histoire de France. Il y a eu des mouvements en 1968 qui étaient assez importants du point de vue de la mobilisation sociale, on peut parler mal d'un mouvement révolutionnaire. Dans la foulée, il y a eu des élections législatives qui ont été largement remportées par le général de Gaulle. Est-ce qu'on peut dire pour autant que mai 68 a été inutile et n'a pas produit d'effet dans le temps? Je ne pense pas. Je pense que pour ce qui est du mouvement des Gilets jaunes ou les autres mouvements que j'ai pu citer, il en est de même. C'est-à-dire qu'on ne renverse pas le pouvoir, mais on fait avancer les choses. D'abord parce que les gens se connectent. Moi, l'article le plus intéressant que j'ai lu sur les Gilets jaunes, c'est un article de Florence Obna qui est juste génial dans Le Monde, où elle va à leur rencontre, elle discute avec les Gilets jaunes, mais surtout elle écoute, elle voit ce qui se passe. Et ce qu'elle décrit, c'est vraiment magnifique, c'est des gens qui étaient dans la même condition sociale, qui souffraient du travail, qui souffraient de manque de sens dans leur vie, et qui d'un coup se retrouvent et se disent « Eh, mais on vit la même chose ?» On habite à côté, on ne se connaissait même pas. Maintenant, on se retrouve sur un rond-point, on fait un barbecue et on se connaît. Peut-être qu'il n'y a pas eu un effet immédiat dans l'exercice du pouvoir politique, mais c'est des mouvements qui s'inscrivent sur un temps long. C'est une lame de fond, ça se stratifie. Et un jour, j'espère que les gens qui ont fait Nuit Debout, les gens qui ont fait les Gilets jaunes et ceux qui vont suivre encore, bah, pourront se coaliser parce qu'ils ont, ils défendent beaucoup de choses en commun.
Pour faire intervenir le public un peu sur cette question aussi de reprise en main de la fête comme un acte politique, Manu, dans le public, on a fait connaissance juste avant la table ronde, mais tu as développé un projet intéressant qui s'appelle le Bim Barboum, voilà, j'arrive à le dire, qui est une sorte de caravane itinérante qui se balade dans le Tarn-et-Garonne, c'est ça, dans le Tarn, et qui incite les gens à faire la fête.
Oui, alors le Bim Barboum, c'est assez anecdotique au final, mais ça, au moins ça pose un peu un contexte de la réflexion là où nous on en est. Donc c'est une caravane itinérante qui se met dans les espaces privés et publics avec une bibliothèque infomobile, des débats, des spectacles, des concerts, pas tout le temps avec des autorisations, pas tout le temps hors confinement, enfin voilà. Et surtout, et là où en fait moi, tout ce que Vito dit me parle énormément, c'est qu'on a cette expérience depuis là maintenant des années et des années d'organiser ces fêtes-là. Et le constat, c'est en fait, il s'y passe un peu toujours la même chose. Moi, très tôt, j'ai vu la fête comme un outil, comme un acte de rébellion. Et là, je me dis, on a toujours un peu les mêmes schémas. Il y a des gens qui viennent en consommateurs, qui viennent regarder quelque chose, picoler, se la mettre et rentrer chez eux. Et que là, nous, on a très envie d'essayer d'inventer quelque chose de nouveau. Et là, pour l'instant, là, on est sur de la théorie, on a fait quelques trucs en pratique. Moi, j'ai la sensation qu'il y a un lien social qui peut se faire, qu'il y a vraiment un outil assez fort. J'ai l'impression que ça passe par l'inconfort. Aujourd'hui, dans nos fêtes, on est un peu trop confortable. Parce que du coup, on va dans un endroit qui est balisé, on va retrouver ses copains, et finalement, l'acte de créer du lien, il n'existe pas. Quand on va tout seul dans une fête où il y a juste un truc à regarder, ben on reste un peu tout seul. Alors que quand on se retrouve dans une situation un petit peu plus inconfortable, ça va passer par... nous, par exemple, on a forcé des gens à monter en haut d'une montagne en portant des brancards hyper lourds, en leur disant, vous ne savez pas ce que vous allez faire, mais vous allez faire rendez-vous dans telle montagne à minuit. On était 80... Et en fait, on allait faire un énorme feu d'artifice et un concert en haut d'une montagne. Les gens ont râlé parce que c'était des brancards extrêmement lourds. Mais au final, tous ces gens qui ne se connaissaient pas, qui se sont retrouvés dans le noir, avec vite fait des petites frontales, qui ne comprenaient rien à ce qu'on faisait, ça a forcé à ce que des gens qui ne se connaissaient pas discutent entre eux et deviennent finalement, 10 ans plus tard, parce que là, ça fait un moment, les meilleurs copains du monde. Quand on se reconnaît d'avoir vécu une épreuve terrible comme ça, c'est le syndrome de l'accident de bus. C'est des gens, ça devient la famille très vite. Et du coup, voilà, de cet inconfort, enfin moi, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité d'inconfort quelque part à placer, quoi, et qu'il y a à réinventer.
Ce que tu évoques, ça me rappelle un peu le début de la techno en France dans les années 80, quand elle est arrivée. Ça concernait un petit monde d'initiés, on va dire des gens plutôt issus du milieu gay, des médias, des milieux de l'art, de la pub. Et il y avait quelque chose d'assez transgressif là-dedans, malgré le public qui n'était pas forcément, lui, très transgressif, enfin tout qui peut être aussi établi. Mais il y avait ce côté-là. On met les gens dans l'inconfort d'une certaine manière parce qu'on organise des soirées dans des lieux complètement invraisemblables, dans lesquels où il faut des heures pour trouver son chemin et arriver au lieu dit. Guido, tu n'as peut-être pas connu ces soirées-là, mais bon, l'électro, c'est quand même une héritière de ces mouvements-là. Quel regard tu portes, toi, aujourd'hui, sur cette transgression-là? Et est-ce que tu as toujours l'impression qu'il y a un côté transgressif dans les soirées électro, aujourd'hui, que tu peux faire?
Ce qui est sûr, quand on écoute des gars qui ont vécu ça, ce truc de savoir déjà choper l'info... alors parfois il y avait des numéros de téléphone, parfois c'était sur le Minitel, parfois c'était des papiers échangés, il fallait aller dans un bar, trouver le gars qui avait le contact, enfin, c'était apparemment des histoires folles pour connaître l'endroit où ça se passait. Après il fallait réussir à s'y rendre, et ouais, les gens qui ont vécu ça en parlent comme vraiment d'un truc qu'on pourra jamais toucher du doigt, quoi.
D'une certaine manière, là, cette soirée-là, elle rappelle un peu ça, peut-être, cette effervescence.
Ouais, ouais. Oui, ouais, il y a le fait de fournir un effort pour accéder. Bon, mais finalement, c'est un peu aussi l'histoire de la vie. Je veux dire, toute la semaine, toute la journée, on fournit des efforts. Et puis le soir, il y a quelque part une fête qui nous attend pour relâcher la pression, se lâcher, se la coller, rencontrer des gens ou pas, tout ça.
Les deux peuvent cohabiter, on fait dans une seule soirée.
Ouais, voilà. Bon, alors c'est pas le même, évidemment, c'est pas le même type d'effort, mais quand même, cet aspect récompense, il est toujours là, quoi qu'il arrive, quoi.
Du coup, il y a aussi un côté utopique, un peu là-dedans, de réinventer la société par des nouvelles formes. Vito, toi, tu parles d'utopie des espaces ouverts. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette notion, justement?
Juste si je peux rebondir sur les notions d'effort, d'inconfort, je trouve ça vraiment... ça marche bien, je trouve, parce que il y a dans la définition de la fête, c'est deux modalités qui se font face comme en miroir. La fête où on est spectateur, on vient, on regarde, on consomme, et finalement on est passif. Et la fête où, inversement, chacun est invité à faire quelque chose, où chacun est considéré comme un élément essentiel d'un tout qui s'invente. Et ça répond déjà à ta question sur l'utopie. Elle est là, l'utopie festive. C'est que dans une fête où chacun fait un effort, on est tous en train de créer quelque chose, et c'est en soi déjà un projet collectif qui relève de l'utopie.
Il faudrait que ce soit comme une photographie de la société, quoi. Oui. Pour faire une belle fête.
Alors,
Il me semble que vous avez dit, on sait que la fête nous attend. Et ça, jusque-là, je vous entendais. Là, je ne vous entends plus. La fête, elle n'a pas à nous attendre. On peut se mobiliser pour faire des fêtes et ne pas se dire, je vais là. C'est comme aujourd'hui, tous les gamins ont des bagnoles. Ils vont à la fête en voiture. Moi, quand madame parle de prendre qu'est-ce que vous leur avez fait porter ? Des brancards. Moi, quand j'étais ado, j'allais de Bourg-Saint-Maurice à C. Il y avait 7 km. On allait au bal. Il n'y avait que ça. On s'amusait bien sur la route. On s'amusait plus en montant et en redescendant. Et puis, il n'y avait rien qui nous attendait à part de mauvais musiciens, mais on s'amusait quand même, quoi.
Du coup, sur l'utopie des espaces ouverts, je crois le temps, autant que l'espace, c'est des éléments de base. Et moi, j'ai grandi en banlieue, j'ai toujours connu ces bars HLM. Et du coup, à chaque fois, on essayait de se trouver des petits espaces où se retrouver entre potes pour faire nos fêtes. Alors, c'est pas forcément, c'est rien de très élaboré, hein, à cette époque-là en tout cas, mais je crois qu'on pense pas assez à ça. Il y a quelques années, j'étais à Berlin, j'ai découvert un parc absolument gigantesque, et dans ce parc, il y avait des barbecues des barbecues collectifs. Et je me disais, mais pourquoi on fait pas ça en France ? En France, on ferme les parcs la nuit. Et c'est pour éviter que les SDF aient la chance de pouvoir dormir peut-être en été à la Belle Étoile dans des conditions un petit peu plus chouettes que dans le métro ou sur. Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe dans la gestion des politiques publiques en lien avec les espaces publics. Donc là, il y a plein de choses à inventer qui coûtent rien, hein, qui coûtent rien. Juste en termes de liberté, ça rapporte.
Mais est-ce que finalement c'est pas globalement un seuil de tolérance qui s'est abaissé, c'est-à-dire que la fête en ville, quand la fête se fait à côté de chez nous ou dans on habite au-dessus d'un bar, on peut se dire on la tolère finalement de moins, ouais, en moins.
Mais j'ai entendu parler de gens qui à Paris achetaient un appartement rue Jean-Pierre Timbaud et puis qui disaient ah ouais mais maintenant ça fait du bruit. Non mais les gens ils pouvaient pas ne pas savoir que rue Jean-Pierre Timbaud, c'était le bordel tous les jours. À Montreuil, ils nous font la même chose. Maintenant, c'est rue du Capitaine Dreyfus. Ils appellent ça la rue de la soif. Bon. Alors moi, je leur dis, essayez. Hein. Vous supprimez tous les bars, vous allez voir ce qui reste. C'est, dans ce cas-là, c'est la zone et c'est mort, et c'est moche et ça craint. Donc, et puis ils disent, ah, mais ça fait du bruit. Mais oui, mais ça a toujours fait du bruit. Mais vous êtes venu vous installer là et donc, bah, voilà, peut-être accepter. Mais il y a aussi un truc paradoxal, c'est que si on ouvrait les espaces verts la nuit, il y aurait moins de nuisances sonores que si on ne le faisait pas. Je veux dire, il y aurait plus de gens dans les parcs, et dans les parcs, il n'y a pas d'habitation immédiate ou immédiatement proche. Donc il y a à la fois un impensé par rapport aux gens qui vont s'installer volontairement dans des quartiers et puis qui après estiment que c'est intolérable, et un manque d'ouverture des espaces publics qui génère ce phénomène ou l'alimente, à tout le moins.
Et est-ce que c'est pas aussi finalement on sait que la fête aussi c'est des espaces très codés avec on parle de dress code parfois, il y a des bars, des lieux qui s'adressent directement à un type de population. Et est-ce qu'en France, pour faire en parallèle avec le Sud-Ouest et notamment l'Espagne, où on voit dans les bars en Espagne toutes les générations, en tout cas plus qu'en France, semblent réunies dans les bars, semblent fêter quelque chose. Et donc, ce seuil de tolérance aussi, peut-être que parce que certains sont exclus, parce que la fête ne s'adresse pas forcément à tout le monde, peut-être qu'il s'abaisse et que comme les gens n'y prennent pas part, ils ont pas envie de la subir. Je ne sais pas, toi qui avais voyagé à l'étranger, est-ce que dans d'autres pays, tu sens la même chose ?
Je sais pas, j'ai pas assez discuté avec les gens à l'étranger pour savoir si eux aussi ils se plaignent du bruit et tout. Mais enfin, on a quand même l'impression à Paris, et peut-être même en France de manière générale, qu'il y a un vrai problème avec ça, quoi. Que la fête est devenue problématique pour plein de monde. Alors que bon, c'est juste des gens qui picolent et qui parlent fort et qui rigolent. Enfin, il suffit de fermer la fenêtre et de mettre de la musique, on les entend plus, quoi. Et d'autant plus que, effectivement, c'est des gens qui débarquent dans des quartiers qui sont attractifs parce que il y a des bars et de la vie. Et tout d'un coup, cette vie, ça devient pour eux un problème. À l'étranger, en tout cas, on a vraiment le sentiment que c'est pas pareil, que tout est mieux fait, quoi. Les cadres sont mieux, techniquement c'est mieux, le son c'est mieux et tout. Mais voilà, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes de nuisance. Je sais pas comment ça se passe dans le Sud-Ouest, à Paris. Dès qu'un lieu diffuse de la musique, hop, il y a une commission qui vient vérifier quel niveau de bruit ça fait. Il faut installer un limiteur de son qui va faire un son dégueulasse. Et puis petit à petit, tout le monde a un son dégueulasse. Et bon, les gens, ils se marrent quand même parce qu'il y a de l'alcool, mais on passe quand même à côté de... C'est quand même agréable d'entendre les lignes de basse dans les morceaux, quoi. C'est dommage que ça disparaisse. Bon, et après, je sais pas si on peut faire ce type de généralité que pour la France. En tout cas, visiblement, à Londres, les gens, ils sont très peinards vis-à-vis des pubs et tout. On n'a jamais entendu quelqu'un se plaindre du bruit du pub. Parce que c'est vraiment culturel. On sort du taf, on va au pub, et c'est le bordel. Les gens, ils hurlent, vraiment, ils vocifèrent. Mais bon, c'est comme ça, c'est complètement accepté. Je ne sais pas pourquoi en France, il y a encore ce problème, quoi.
Vito, tu parles souvent de Montreuil. Dans nos différents échanges, tu as beaucoup évoqué Montreuil, tu viens de là-bas, tu as grandi là-bas. À Montreuil, tu as l'impression qu'il y a une... Donc c'est en banlieue de Paris. T'as l'impression que l'esprit est différent, les choses sont différentes, et c'est plus populaire, on va dire, dans le sens fédérateur, la fête.
Juste petite rectification, j'ai grandi à Nanterre, à Pablo Picasso, les Tourailleaux, je sais pas si ça vous dit quelque chose, bon, c'est là que j'ai grandi. Et je me suis installé à Montreuil il y a 16 ans. Et j'ai découvert une ville de banlieue absolument incroyable. Je crois que c'est pas tout à fait sans lien avec une population d'intermittents au kilomètre carré qui est assez hallucinante. Et du coup, Il y a beaucoup de compétences artistiques. Et c'est là que j'ai vu des choses assez incroyables. Je me souviens des premières soirées que j'ai passées à Montreuil. On se posait sur les marches devant chez nous avec de quoi prendre l'apéro. Et il y avait un voisin qui passait qui disait « Hey, salut les jeunes, tu viens avec nous, on prend l'apéro. » Et puis il s'arrêtait. On sortait une guitare, il y avait des djembés. Il y a un autre voisin qui passe qui dit « Attends, je ramène ma clarinette. » Et on était en milieu de semaine, hein, on était un mardi. Au bout de 2 heures, on était 15 voisins devant l'immeuble à faire la fête ensemble. Et je crois que quand on a beaucoup d'artistes qui se croisent, qui se recroisent, qui à un moment donné se disent bah, « tiens, on va faire de la musique ensemble », il se passe des choses assez magiques, parfois juste dans la rue devant chez nous. C'est vrai que je trouve qu'en termes d'espace et d'utopie de l'espace public, c'est ça qui est génial. Parce que même le voisin qui rentre chez lui, qui n'a pas prévu de faire la fête, il a la possibilité d'y participer. Alors que quand on dit on va faire la fête, faut se déplacer, voilà, il faut le planifier, l'organiser dans son emploi du temps. Là, c'est quelque chose d'hyper spontané. Et la spontanéité, c'est absolument génial. Les meilleures fêtes, c'est celles qu'on n'avait pas du tout prévues et qui nous tombent sur le coin du nez pour le meilleur.
D'ailleurs, c'est tellement mort ça que maintenant, il a fallu inventer la fête des voisins pour obliger les gens à retrouver une vie sociale, tellement les mecs ils se parlent plus quoi.
On boycotte avec mes copains voisins, on boycotte la fête des voisins, on dit oh, non, pas encore. On fait ça toute l'année pour en plus se taper la fête des voisins quoi.
Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on est quand même dans une société où on nous invite à faire la fête tout le temps, à fêter la musique à fond dans les centres commerciaux, les monuments historiques qui se transforment, qui peuvent se transformer en lieu de fête. Et paradoxalement, on ne veut plus entendre la fête en bas de chez soi et on veut plus, presque plus la voir, quoi.
C'est vrai qu'à un moment, il y a eu cette prolifération un peu chelou de DJ partout. Il y en avait chez le coiffeur, il y en avait à la boulangerie. Bon, alors forcément, ça amenuise un peu l'effet, quoi.
Est-ce que parmi le public, des personnes peuvent témoigner ? Parce que là, on parle beaucoup de milieu urbain, donc il y a la densité qui fait que bah, forcément, la fête, elle peut être spontanée, elle peut être... Madame le disait tout à l'heure, on prend la voiture et on arrive dans une soirée où les musiciens sont mauvais, mais bon, on est quand même content de quand même content de partager un bon moment. Est-ce que vous sentez une différence entre si des gens vivent dans les Landes, par exemple, où la densité est quand même très faible, est-ce qu'il y a parmi vous des Landais, des Landaises qui portent un regard sur la fête? Vous avez un micro qui arrive.
Je viens à un milieu semi-rural et je trouve que les lieux de fête, bars musicaux, bars associatifs, associations et collectifs divers, créent des fêtes. Il y a des fêtes. Et de plus en plus dans un milieu rural. Donc, bon, après, il y a les fêtes traditionnelles ici dans les Landes, les férias, tout ça, bon, on connaît. Mais il y a d'autres formes de fêtes qui sont en train de naître, d'évoluer. Donc, je voulais aussi rajouter un mot sur l'appropriation du lieu public. Pour moi, la fête aussi, la manifestation, qu'elle soit... Bon, maintenant, je trouve qu'avec les manifestations, avec un public jeune, par exemple, sur le climat et tout ça, la réappropriation du lieu public, la communion, bon, la communion religieuse, moi je mets de côté, enfin personnellement, mais la communion sur un thème, sur une idée, ça c'est revigorant, je trouve. Ce qui me ravit aussi, c'est quand je vais aux manifs, c'est de lire les slogans, les petits panneaux. Avant, on avait des grandes banderoles avec des slogans de partis politiques et autres. Là, sur les manifs, on a des trucs, chacun y va de son esprit créatif. Moi-même, je vais pas à une manif sans faire un petit panneau. Je trouve que c'est quelque chose qui... Ça participe de la fête, quoi. C'est la communion. Et puis, oui, on est ensemble et on est sur un lieu qu'on reprend, la rue. Voilà.
Et justement, la transition est toute trouvée pour demander à Vito, peut-être, du coup, ce parti de la fête, ce serait quoi ses premières mesures? Et peut-être qu'on peut partir de ça aussi pour en débattre avec vous et puis continuer à faire tourner la parole. Je crois qu'il y en a 12, 13 13 mesures ?
C'est plus anecdotique, c'est à la fin du bouquin, je me suis amusé à faire des propositions comme ça. Bon, mais pourquoi pas ? Juste sur la notion de parti politique, parce que j'ai eu plein de discussions avec des amis, avec des gens que j'ai rencontrés aussi depuis que j'ai écrit le bouquin. Juste pour le présenter, il ne s'agit pas de créer un parti politique parce que ça n'aurait aucun sens. Et voilà, mais l'adhésion, elle se fait comme ça, tu vois. Genre, ah, moi aussi, j'en suis. En fait, c'est pas créer un parti de la fête, c'est prendre le parti de la fête, si vous me permettez juste de jouer un peu sur les mots. Donc, un parti politique, ça voudrait dire qu'il y a une hiérarchie. Imaginez la hiérarchie. Il y aurait le chef du parti de la fête, le chef de la fête. Non, mais ça n'a aucun sens, parce que justement, la fête, elle a ce côté anarchisant que tout le monde est au même niveau, et c'est ça qui fait que c'est beau. Donc, dans l'idée de, pour un parti de la fête, il n'y a pas du tout l'idée de créer une structure, une hiérarchie, de se présenter aux élections. Même si on peut prendre parti au moment des élections en disant que la NUPES est un peu plus festive que les autres partis candidats aux élections.
Mais justement, la fête est de gauche, obligatoirement ?
Bah, il me semble oui, parce que d'abord, il y a une dimension antiproductiviste. On veut travailler moins. On veut profiter des choses essentielles de la vie plus. Donc,
travailler moins pour profiter plus.
Et voilà, travailler moins, profiter plus.
Le slogan, on l'a déjà.
Donc, on veut des artistes. Mais pour avoir des artistes, il faut un statut protecteur. Parce qu'il leur faut du temps pour créer des artistes, que ce soit des musiciens ou des comédiens ou des auteurs de pièces de théâtre, que sais-je. Tout cela, ils ont besoin de temps. Aujourd'hui, vous savez que quand, par exemple, les auteurs de livres, les poètes, etc., ils n'ont pas d'intermittence, ils n'ont pas droit à l'intermittence. Là, vous êtes inscrit à la maison des auteurs quand on a de la chance. Pour les artistes plasticiens, c'est la même chose. À rien. Les artistes plasticiens. Pourtant, les artistes plasticiens, ils jouent un rôle essentiel dans la fête. Donc, et ce serait ça aussi, créer un statut véritablement protecteur et inclusif pour les artistes et ceux dont on profite des créations au moment où on fait la fête.
Donc ça, c'est une des mesures phares.
Plus de temps, avec ça peut être encore une fois plus anecdotique, c'est doublement des jours fériés. Après, il y a plein de modalités, mais je me disais, le lendemain des jours fériés, c'est quand même pas mal. Parce que... Vous savez, la fête de la musique, quand même, c'est le solstice d'été, c'est même pas férié. Franchement, s'il devait y avoir une mesure de progrès social, ça commencerait par là, quoi. Le 21 juin, quand même. Enfin, c'est légitime. Mais du coup, le lendemain, c'est légitime de dire oh, pour s'en remettre tranquillement. Donc voilà. Comment ?
Mais t'es pour la semaine de 3,5 jours, je crois.
La semaine de 3,5 jours, ouais. C'est bien, parce qu'il y a plein de gens qui disent la semaine des 4 jours, et tout ça. Je dis, ouais, mais 3,5, c'est mieux, c'est un mnémotechnique par rapport à 35 heures. Donc 3,5, c'est bien, puis 3,5, parce qu'il ne faudrait pas qu'on travaille plus. On divise la semaine en deux, en fait. Et pas travailler plus que ce qu'on a de jours de... Ça me semble juste. Et je dis pas on arrête de travailler, je dis on rééquilibre un peu le truc.
Alors, qui vote pour Vito
et qui... et je ne suis pas candidat, donc... mais qui vote pour la fête ? Je pense que...
Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions par rapport à ça ? Oui, la demoiselle au fond du... Le micro arrive.
Moi, je voulais questionner un peu ce que vous disiez par rapport au fait qu'il n'y ait pas d'hiérarchie dans la fête, vu que je trouve que c'est faux. Enfin... Pour moi, c'est faux, en tout cas, ne serait-ce que dans l'accès à la fête. Enfin, par exemple, si on reparle des fêtes parisiennes ou de banlieue parisienne, etc., finalement, la fête, ça coûte cher. L'entrée coûte cher, les boissons coûtent cher, etc.
Pour moi, c'est pas la fête.
Mais d'accord, mais dans ce cas, comment est-ce qu'on la définit ? Qu'est-ce qui est la fête et qu'est-ce qui n'est pas la fête ? Et comment, justement, dans ma génération, j'ai l'impression que les fêtes, ce qu'on définit comme fête et ce à quoi on a accès... C'est pas les fêtes spontanées que vous définissiez où c'était une organisation non hiérarchique et spontanée. Il y a quelque chose de beaucoup plus structuré et qui vient aussi du fait qu'on n'a plus le choix de cette non-structuration.
Ouais, je suis assez d'accord avec, avec ce que tu dis. Juste, il y avait un exercice au début et à la fin de mon travail sur le sujet. Enfin, je savais exactement ce que je pour moi spontanément je sais ce que c'est que la fête. Il n'y a pas d'hierarchie dans la fête que j'entends comme étant une fête. Mais une fois que j'ai fini de bosser et d'allonger tout ce que j'avais comme idée, je me suis dit il y a un problème de définition de base. C'est quoi ta définition de la fête? Et je me rendais compte que finalement je tournais autour de ça et qu'à un moment donné je devais l'affronter. Donc j'ai non pas défini ce qu'était la fête, j'ai commencé par dire ce que ne pouvait pas être ce qui ne pouvait pas être considéré comme une fête. Et donc il y a parmi ces critères les fêtes où il y a un problème à l'entrée déjà. Donc l'accessibilité c'est une condition de la fête. Alors je sais peut-être ça peut choquer des gens qui organisent des événements, qui font payer l'entrée, etc. Mais moi j'ai un souci avec le fait de devoir payer une entrée. On parlait tout à l'heure du chinois avec mon camarade Guido parce que c'est une salle de Montreuil. Ben cette salle au début dans son fonctionnement c'était complètement gratuit d'accès, à charge pour les gens à l'intérieur de payer des consommations. Et puis, il y a eu un tournant, un moment qui était un tournant que je peux comprendre aussi, parce qu'il y a eu une économie, hein. Il faut quand même que les artistes puissent être rémunérés. Et donc, il y a eu un moment donné, un virage, l'entrée était payante. Et moi, j'ai arrêté d'y aller, même s'il y avait parfois des artistes que je trouvais intéressants et que et ça me posait un problème de payer à l'entrée parce que, encore une fois, le prix libre, c'est ce qui me semble le plus juste parce que dans ces cas-là, tout le monde peut donner d'abord selon ses possibilités et parfois rien quand on est vraiment fauché. Donc il y a vraiment un exercice de définition à la base qui doit être fait et que je me suis essayé à faire. En essayant d'être le plus prudent et en respectant aussi les différentes sensibilités, c'est vraiment une vraie question difficile.
Alors, intervention méga relou, parce que moi je suis mille fois d'accord avec toi, mais il y a un petit bémol, parce qu'il y a certains aspects de la fête qui font qu'elle représente un coût. C'est quand on fait venir certains artistes de l'étranger, d'ailleurs... que ça engendre des frais, qu'il y a un cachet à payer, tout ça. Donc ça se répercute sur le prix d'entrée. Et après, c'est au public de savoir faire le distinguo entre bah, ouais, celle-là, elle coûte 20 balles parce qu'il y a un tel et un tel. Celle-là, elle coûte moins parce que c'est le DJ qui habite à côté. Et parfois, il y a un flou parce que tu payes quand même tes 20 balles alors qu'il n'y a pas un DJ qui vient de loin ou qui coûte cher. Et bon, c'est à chacun de savoir s'y retrouver. Moi, je suis pas choqué qu'une soirée où jouent des DJ qui coûtent un certain prix, bah, coûte un certain prix. En fait, c'est tout simplement logique. Sinon, la soirée peut pas avoir lieu. Alors, c'est pas ça que tu voulais dire, non?
Pour faire le lien entre la question précédente et cette remarque, il y a pas forcément, enfin, ça condamne pas forcément la fête à ne pas avoir lieu. En fait, c'est juste le rôle de la collectivité publique de rémunérer aussi les artistes dans ces cas-là. Elle le fait déjà partiellement. Mais je me souviens d'avoir assisté à des concerts de James Brown à Place de la République à Paris. C'était fin des années 90.
C'était gratos.
Et c'était James Brown. Et il venait de loin, je crois. Enfin, donc il fallait le défrayer. Et puis, donc, se dire. Enfin, il faut pas se dire.
Mais là, c'est l'argent public. C'est encore un autre délire.
Mais du coup, c'est la collectivité. Elle doit prendre beaucoup plus de place dans le financement des soirées, etc. Donc, ça permettrait de résoudre un petit peu la question. Et du coup, pour rebondir sur ta dernière intervention, je pense que c'est la responsabilité de la collectivité publique. De financer une culture qui soit vraiment accessible. Et je crois que c'est ça qui permet de mettre au défi les lois de la sociologie et de on se retrouve entre nous, etc. C'est quand on a une vraie culture accessible que les gens peuvent se rencontrer, quel que soit leur milieu. Et c'est ça qui manque énormément aujourd'hui et qui fait qu'il y a beaucoup d'entre-soi. Et je vois encore une fois, excusez-moi de citer Montreuil à tout va, mais à Montreuil, quand je vais au Festival des Murs à Pêche, je croise de tout, dans la population, la ville, parce que c'est gratuit. Et les artistes sont rémunérés, parce qu'il y a des financements publics de la commune. Et les gens se brassent vraiment très, très largement parce que c'est ouvert, parce que c'est encore une fois très, très facile d'accès.
Comme ça devient vraiment l'heure de l'apéro, on va prendre encore une ou deux questions. Et puis après, vous aurez la chance d'entendre une lecture de poèmes réalisés pendant l'atelier d'écriture, sur, d'écriture poétique animé par Étienne Russia sur le thème de la fête. Et donc, nous aurons le plaisir d'entendre quelques poèmes. Avant, encore une ou deux questions.
Alors, oui, c'était, je voulais réagir par rapport surtout à ce que tu disais par rapport à la hiérarchie sur les fêtes. Parce qu'en fait, pour moi, la fête, c'est quasiment obligatoirement quelque chose de très anarchiste. Et enfin, je me permets de dire quelque chose parce que je pense que générationnellement, on n'est pas très éloigné. Et enfin, moi, personnellement, quasiment tous les lieux où je vais, la fête, c'est anarchiste. Ça pourrait peut-être être une des bases de la fête. C'est pas hiérarchisé. Tout le monde est sur le même niveau. Et du coup, je voulais juste réagir par rapport à ça.
Ouais, il faut que ce soit le bordel.
Je veux bien. Sinon, c'est pas drôle. Du coup, ça repose la définition de la fête, parce que la fête n'est pas forcément subversive, elle est pas forcément, elle peut être au contraire un exutoire et les fêtes traditionnelles, c'est exactement l'inverse. Ça permet de maintenir les traditions et de maintenir un peuple, des gens, sous le boisseau. Et c'est les moments de fête qui servent, oui, à perpétuer les traditions et qui sont juste un moment d'exutoire. Donc, oui, moi, je pense du côté de la fête subversive, mais elle n'est pas que ça. Donc, voilà, c'est le problème de la définition de la fête ou des fêtes. Il n'y a pas une fête, en fait, il y a des fêtes. Et laquelle choisir ? Voilà, c'est... Enfin...
En fonction de ses goûts et de ses moyens.
Moi, je viens d'une zone rurale, je viens d'Auvergne, et il y a un mouvement qui cherche vraiment à faire la teuf, quoi, et qui est le mouvement du trad, justement. Ce sont des gens qui entrent pas dans une question de la subversion, c'est pas du tout leur entrée, c'est la question de l'éduc pop, qui est vraiment au cœur. Et en fait, par exemple, il y a un centre départemental de recherche sur la musique trad, qui s'appelle les Braillots dans le Puy-de-Dôme, où en fait, on ne peut pas avoir des fêtes plus organisées. Donc c'est les musiciens, ils les connaissent 4 mois à l'avance, c'est les jeunes du centre de l'école de musique des instruments trad et des chants trad qui réapprennent des chants en occitan auvergnat et en patois afin de préparer ces soirées-là. Parce que tu vas à l'école de musique, tu sais que 3 fois dans l'année, il va falloir que tu viennes faire la teuf, tu connais les dates quand tu t'inscris au mois de septembre. Donc c'est en fait, ces fêtes sont peu improvisées. De fait, c'est des teufs, mais qui finissent jusqu'à pas d'heure. Tout le monde, enfin, personne veut partir. Les gens, ils dansent, ils jouent de la musique, ils chantent. C'est hyper énervé. Et pourtant, ce n'est pas improvisé. Mais parce qu'en fait, leur entrée, elle est complètement sur cette question de l'émancipation. C'est la fête où on est acteur. Alors, ça demande des efforts, effectivement, dans le temps, parce qu'il faut apprendre à jouer d'un instrument. Ça, c'est dur. Enfin, c'est pas facile, en fait, d'apprendre à danser. Même, il faut savoir faire 6 pas. Si tu vas t'inscrire à l'école de musique, en fait, t'as pas le droit de pas savoir danser la bourrée auvergnate non plus. Enfin, c'est vraiment des trucs hyper énervés, quoi. Ils sont radicaux. Hein. Résultat, leur école de musique, en 20 ans, elle a multiplié ses effectifs par 40, presque. Enfin, c'est délirant. Ils embauchent 30 profs dans un bled où il y a 400 habitants. Enfin, on se rend compte, c'est fou furieux, quoi. Et c'est vraiment un milieu où aujourd'hui, qui a peut-être 50 ans, a été vraiment dans le mal. Il n'y avait plus grand monde parce que la musette, plus personne ne voulait en écouter. La vieille Larousse, c'était plus très tendance. Aujourd'hui, ils sont en train de financer des créations contemporaines. Ça part dans tous les sens. Enfin, c'est trop cool, quoi. Et en fait, il y a cette image qui est là, qui est assez loin, en fait, du monde de la nuit même. Parce que quelquefois, c'est des fêtes où, quand il n'y a plus de bois, le feu, il s'éteint. Et du coup, à 23h30, des fois, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de feu. On peut plus faire à manger, il y a plus de lumière, et du coup, tant pis, quoi. Mais et c'est aussi, je trouve, c'est intéressant, c'est que c'est un lieu qui est très éloigné d'une économie de marché. En fait, globalement, on se joue que dans ces soirées-là, il y a effectivement des musiciens professionnels, il y a beaucoup de musiciens amateurs qui viennent jouer ensemble, qui connaissent les mêmes morceaux, qui se mélangent. Et il y a des hiérarchies, parce que de fait, il y a ceux qui jouent mieux que les autres, qui transmettent, sauf que le principe de la transmission, il est au cœur. Et en fait, ils jouent plein de codes. C'est hyper, en fait, codifié. Mais de fait, c'est hyper, hyper émancipateur. C'est génial, quoi. Enfin bon, je ne sais pas trop ce que je voulais dire, mais tout à l'heure, vous parliez de la question de la ruralité. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un mouvement qui se revendique hyper politique dans la tradition de l'éduc pop de la Seconde Guerre mondiale et juste après, et qui est vraiment hyper énervé, quoi. Voilà.
On n'entend pas assez de bonnes nouvelles. Donc ça fait plaisir d'entendre ce genre de bonnes nouvelles.
Voilà, on y va.
Justement, dans ces bals traditionnels, parce qu'il y en a pas mal dans le sud-ouest aussi, ce qui est très agréable, c'est un petit peu comme en Grèce, pour ceux qui sont allés ou qui y vont. Tout le monde danse. Là, je ne parle pas des musicos. Bon, tout le monde danse, connaît plus ou moins les pas, mais ça ne fait rien. Tu as les enfants qui sont juchés sur les épaules de leurs parents. Tu as des vieux, tu as toute génération confondue, tout milieu, etc. Et tout le monde s'amuse et il y a une véritable communion pour le coup, vraiment. Et ça, c'est intéressant. Et tu le sens. C'est presque aux limites de la ferveur, quoi. Et c'est extraordinaire parce que tout le monde s'amuse, tout le monde paye des coups à boire à ceux qui dansent particulièrement bien, etc. Enfin, c'est marrant. Voilà.
Mais ça, on ne le voit que à l'étranger, en fait. Hein. En France, on est vraiment les champions des ringards, quoi. On n'a pas de... C'est quoi, on danse le rock, et on danse la Macarena, et c'est trop triste. Il faudrait qu'on ait aussi des danses cool qui rassembleraient tout le monde, qui mettraient tout le monde d'accord.
Mais je crois que ce soir, il y a une soirée gratuite avec un DJ cool.
Il n'y aura pas de danse qui rassemble chacun, toutes les générations, machin.
On sait jamais.
En Grèce, comme elle disait, ou dans les pays arabes et tout. Enfin, genre, tout le monde danse le dapke. N'importe qui est capable de venir dans un cercle dapke. Bon.
En Bretagne.
Ouais, ben voilà, il faut aller en région, quoi. Mais il n'y a pas un truc qui rassemble vraiment tout le pays. Comment on a pu passer à côté de ça, la danse française ?
La Macarena.
Ouais, la Macarena.
Une dernière réaction avant que Étienne prenne le micro pour lire les poèmes et danser, du coup, comme les dernières.
Juste, c'est une petite réaction par rapport au 22 que tu disais. Là, tu parlais du 22, après la fête de la musique. Dans les Hautes-Pyrénées, ça existe. C'est le 22 à Aner. C'est le jeu de mots pour les anciens du téléphone. 22 à Aner, c'est un festival de musique, de films muets accompagnés musicalement. Et enfin, tous les 22, ils font quelque chose dans le bar associatif. Voilà, c'est... Et puis ce festival, il fonctionne encore au cochon. C'est-à-dire, pas d'entrée, chacun met ce qu'il veut dans le cochon. Chapeau, oui, mais là, c'est un cochon. Bon. Et puis, il faut dire aussi, le monsieur de musique trad en Auvergne, il faut dire, musique trad, c'est plus le bignou et le truc. Hein. Il y a des musiques trad électrifiées qui se rapprochent du rock garage, qui se rapprochent... C'est quelque chose de très, très évolutif. Voilà.
Ouais. Mais du coup, c'est sur cette note d'espoir qu'on va mettre fin à la table ronde. Merci au public d'avoir participé, d'être resté jusqu'à maintenant. Merci Vito et merci Guido pour votre participation.